9h-10h. À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonne fête de l'Aïd à tous, ravi de vous retrouver, on va passer cette heure ensemble. Bonjour Imam Ismaël Mounir.
Bonjour, salam alaikum, aïdkoum moubarak, sa'id, ghafarallahu lana wa lakoum, wa kulla ama antum bikhair. Je souhaite une bonne fête à tous les musulmans et à toutes les musulmanes.
Et moi je peux vous dire en indonésien si vous voulez.
Allez-y.
Selamat Hari Raya.
Selamat
Hari Raya.
Hari Raya.
Voilà.
C'est bien.
Idul Adha.
Idul Adha.
Idul Adha, ça change. Ça change pas, mais c'est la mat Hari Raya, ça veut dire bon grand jour en fait.
D'accord.
Bien, nous sommes ensemble pendant une heure pour évoquer cette journée. Alors, on dit Aïd el Kébir, Aïd el Adha. Quel est le bon nom?
Non, mais
la fête.
Les deux mots sont acceptables. Les deux appellations sont acceptables. Mais c'est vrai que l'appellation, on va dire religieuse, c'est plus Idul Adha. Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Mais l'autre appellation, elle est aussi tout à fait acceptable, Eid al-Kébir. Et là, en fait, elle s'oppose à l'autre Eid al-Fitr, donc la fête de la rupture du jeûne, qui on considère que c'est la petite fête, puisqu'elle ne dure qu'un jour, alors que l'autre dure plusieurs jours, Eid al-Kébir. Et donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il y a la petite fête et la grande fête.
C'est pas une question d'importance. On ne dit pas petite et grande en pensant que
on considère que Eid al-Adha est une fête plus importante que Eid al-Fitr.
C'est donc la plus grande fête, du calendrier musulman.
Des musulmans, exactement.
Alors, cette fête, qu'est-ce qu'elle commémore?
Alors, elle commémore le sacrifice d'un homme qui s'appelle Ibrahim, alayhi salam, qui est un prophète. Et justement, si vous le voulez bien, j'aimerais bien vous raconter un petit peu son histoire.
Il y a une sourate qui porte son nom.
Alors, il y a une sourate qui porte son nom, qui s'appelle Sourate Ibrahim. Et d'ailleurs, souvent j'essaie de passer ces informations, parce que c'est pour moi un moyen de sensibiliser les musulmans sur la posture à prendre quand on lit le Coran. Est-ce que vous savez que chaque sourate a un thème? D'ailleurs, sourate, c'est le pluriel de mur. Ça signifie les murs qui regroupent tous les versets qui visent les mêmes objectifs. Et en fait, le titre de la sourate, généralement, quand on a identifié le thème de la sourate, on doit chercher à comprendre pourquoi elle s'appelle Ibrahim. Et donc, en fait, la sourate Ibrahim, d'ailleurs, la sourate 15, la sourate 14. Ibrahim, c'est la sourate
14. En l'occurrence, c'est la 14.
Voilà, il y a la sourate 15, l'Hijr, qui est une région. La sourate 16, c'est les sourates où on parle des bienfaits. Et là, par exemple, la sourate 15, c'est le bienfait qui consiste à être protégé par Dieu. C'est-à-dire que quand vous êtes un croyant, même si vous êtes en minorité, vous êtes protégé par Dieu. Sourate 16, c'est les bienfaits de manière générale. On l'appelle suratul ni'am, pour développer la reconnaissance envers Allah. Et la sourate 14, elle parle que d'un seul bienfait, c'est le bienfait de la foi. Et le fait d'avoir appelé cette sourate, sourate Ibrahim, c'est pour justement mettre en lumière le fait que ce personnage, Ibrahim, eh bien en fait, il s'est accroché à sa foi d'une manière exceptionnelle, contre vents et marées. Donc c'est un peu, l'histoire de sa vie. Donc justement, Ibrahim, il naît à Babil. Babil, c'est Babylone.
Ah oui.
La Mésopotamie, qui est en fait l'actuel Irak. C'est l'Irak. Donc, il naît là-bas, mais après, donc, il va voyager. À son époque, il n'y a pas énormément de croyants. Et ce qui est intéressant, c'est que le Coran, je vais me baser beaucoup sur le Coran, en fait, pour retracer un peu sa vie.
Son histoire, même s'il appartient aux trois religions monothéistes.
Bien sûr, il est reconnu par les chrétiens et les juifs. On l'appelle le père du monothéisme. Et d'ailleurs, on dit que la religion chrétienne, juive et musulmane sont des religions abrahamiques. Alors justement, il y a la première chose qui vient dans le Coran par rapport à Ibrahim, c'est... c'est pas la première chose dans l'ordre chronologique, mais l'un des éléments importants, c'est le dialogue qu'il a eu avec son père. Et on voit qu'en fait, Ibrahim, il appelle son père à l'islam, parce que son père adore les idoles. Alors il y a toute une polémique à savoir... Est-ce que le père d'Ibrahim, c'est Hazar, celui qui construisait les idoles? Il y a des polémiques sur ça entre les historiens, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Ibrahim, son père, est un adorateur d'idoles, et il l'appelle à l'islam. Et il lui dit, « Oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne profite en rien ?» Donc il appelle son père et il l'invite à raisonner. Pourquoi tu vas adorer une idole? En fait, elle n'entend pas, elle ne voit rien, elle ne peut rien te faire. Et ça, c'est déterminant lorsqu'on veut essayer d'approcher la personnalité du personnage, la personnalité d'Ibrahim alayhi salam. C'est quelqu'un de très rationnel, de très, terre à terre. Et il dit, « Oh mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu, suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. » Donc là, en fait, c'est pas de la prétention, mais il dit à son père « Voilà, moi je possède une science, et viens parce que j'ai envie de la partager avec toi. » Donc on voit la bonté, en fait. Ensuite, il dit « Mon père, il m'est venu de la science, oh mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. » Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il va lui parler de Dieu, il va toujours employer « miséricordieux ». Et ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont en crise. On a besoin, dans notre conception du divin, de remettre la miséricorde au centre. Et il lui dit, oh mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux, il évoque le châtiment, il parle du tout miséricordieux, ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Donc là, il laisse parler, en fait, l'aspect affectif. Voilà, moi, si je te dis ça, c'est parce que je veux ton bien et ça m'embêterait que tu sois puni. Et là, le père lui dit, oh Ibrahim, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Donc le père le rejette de manière très violente, et Ibrahim lui dit, Assalamu alaik. Il lui passe la salutation, paix sur toi, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Et alors, c'est très intéressant ce passage, j'ouvre une parenthèse, il y a un hadith du prophète, as-salam, dans lequel il est dit, ne commencez pas par saluer les juifs et les chrétiens. Et ce hadith-là, il est en contradiction avec ce verset, puisque les juifs et les chrétiens, là, lui, c'est un idolâtre. Donc c'est encore pire. Du point de vue de l'islam, l'idolâtrie, c'est une catastrophe. Et pourtant...
C'est quoi, c'est un péché capital ou...
Voilà, l'idolâtrie, c'est parmi les plus grands péchés. Et donc, là, Ibrahim, il passe la salutation à quelqu'un qui adore les idoles. Donc pourquoi le prophète dit ne saluez pas les juifs et les chrétiens? De là, certains ils prennent le hadith, et c'est une maladie quand on veut rendre des avis en se basant que sur un texte et en n'ayant pas une approche globale, d'accord, une approche systémique. En fait, ce hadith-là, il vient en contradiction avec ce verset. Donc d'ailleurs, certains savants se sont interrogés, parce que certains savants vous disent « Non, mais il ne faut pas saluer les juifs et les chrétiens, parce que c'est des gens mauvais, etc. » Non, déjà, si le prophète dit qu'on ne doit pas commencer, c'est qu'avant que c'était permis de le faire. D'accord ? Donc il faut se poser la question pour voir pourquoi le prophète change d'avis. Et en fait, il est rapporté que lorsqu'il était à Médine, pendant un moment, certains juifs ne lui disaient plus « Salam alaikum » mais lui disaient « Salam alaikum », que la mort soit sur toi. Et quand le prophète a entendu ça, il a dit « Ne commencez pas par leur passer la salutation. » Et après, c'est assez complexe, mais chez les juristes, pour certains, quand le prophète parle, parfois il ne parle pas en tant que prophète. Parfois, il peut parler en tant qu'être humain. À ce moment-là, s'il parle en tant qu'être humain, ses propos ne sont pas à suivre. Et là, en fait, on dit que le prophète, il parle en tant que moufti. C'est une fatwa qu'il rend. Et une fatwa, donc, il rend un avis en fonction d'une situation. Si la situation change, la position change. Donc, aujourd'hui, oui, on peut tout à fait même dire « Salam alaikum » en premier à un chrétien et à un juif, parce qu'on n'est pas dans cette situation-là. Il n'y a que si on est dans cette situation-là où on appliquerait ce hadith. Et la preuve, Ibrahim, dans le Coran, dit « Salam alaik » à son père, alors que celui-ci vient de l'appeler au monothéisme et que son père a rejeté le monothéisme et lui a l'a menacé de le lapider. Donc ensuite, ça c'est un premier aspect, donc on peut voir tout de suite que c'est quelqu'un de perspicace qui sait débattre, qui a une approche du divin où le divin c'est la miséricorde pour lui. Et on voit en fait que donc il est dans une période où il n'y a pas beaucoup en fait de monothéisme sur terre et donc il débat. Donc il y a tout d'abord un débat qui nous est relaté dans le Coran avec des gens qui adoraient les astres. Donc en fait lui il voit des gens qui adorent les astres et donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il utilise une méthode où en fait il fait comme s'il est avec eux. Il est parmi eux. Et donc il dit, donc Dieu nous dit, lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Donc il est avec les adorateurs des astres, il dit, regardez la lune, regardez comment elle brille, c'est ça mon Seigneur. Et elle va disparaître. Et il dit, ah, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Elle a disparu, donc il y a un problème. Ensuite il dit, il va observer le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, il est plus grand que la lune. Puis lorsque le soleil disparut, il dit « Oh mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. » D'accord ? Juste avant, il avait dit, parce qu'il avait vu une étoile, « Voilà mon Seigneur. » Puis lorsqu'elle disparut, « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Et ensuite, il dit « Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez en dehors de Dieu. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple disputa avec lui, mais il dit « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé. Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse toute chose dans sa science, ne vous rappelez-vous donc pas ? Donc qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qu'en fait, voilà, il s'est assis avec des idolâtres qui adoraient les étoiles. Et en fait, il a fait semblant qu'il était avec eux. Et puis, à chaque fois, il a essayé de déconstruire. Puis par la suite, ils l'ont menacé. Et en fait, sa réponse a été de dire, si vous vous donnez des associés à Allah et vous n'avez pas peur de Dieu, pourquoi moi j'aurais peur de vos menaces, en fait ? Donc voilà, vous voyez, il y a une force chez ce personnage dans l'argumentation, dans la logique, la rationalité. On le voit, c'est récurrent dans le Coran. Et on verra que ça a son importance dans ce qui va lui arriver. Parce qu'il va lui arriver quelque chose de très, très étrange, mais en même temps de très douloureux. Donc il va également avoir des débats avec les adorateurs d'idoles. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que... Donc il est parmi son peuple, et donc ils ont des idoles, ils ont des temples, etc. Et donc là où il y a les idoles, donc lui il voit ce que les gens font, ils apportent des offrandes, etc. Et il trouve ça complètement ridicule. Et un jour en fait, il a une idée. Parce qu'en fait souvent il débattait avec eux, mais il leur dit mais pourquoi vous les adorez ? Ils font rien, ils voient pas, ils peuvent pas se défendre, etc. Et donc il a une idée. Donc un jour les gens ont une tradition, c'est qu'ils partent, en fait. Ils partent, je sais plus ce qu'ils sortent faire. Et lui, il se vient avec nous. Il dit, non, je suis malade. Donc, d'ailleurs, il va mentir à ce moment-là, mais il ment pour Dieu. Donc, il dit, non, je suis malade. Et puis, quand les gens reviennent, qu'est-ce qu'il a fait, lui, en attendant? Il a cassé toutes les statues dans le temple. D'accord? Et il a pris une hache et il l'a accrochée au cou de la plus grande statue. Et les gens reviennent le voir. Il dit, mais qui a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, de ce que je vois, je crois que c'est la plus grande qui a cassé tous les autres statues. Il dit, mais non, mais toi, tu sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il lui dit, mais demandez-leur à vos idoles, demandez-leur qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, mais tu sais bien qu'elles parlent pas. Il dit, mais pourquoi vous les adorez alors? Et en fait, donc, il a réussi à semer le doute par cette scène, mais bon, vous savez bien que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Mmh. Ils vont très rapidement évacuer ce doute pour laisser place, en fait, au sectarisme, au dogmatisme. Et donc, ils vont lui dire, écoute, on sait que c'est toi qui as fait ça, arrête, quoi. Donc, voilà, ces débats avec les adorateurs d'astres, ces débats avec les adorateurs d'idoles. Il y a aussi un autre débat qui aurait été dans le Coran avec Nemrod.
Nemrod, qui c'est, pour ceux qui nous écoutent?
C'était un roi, à l'époque, le roi d'Égypte, il me semble. Et donc, il discute avec lui. Et en fait, on dit que... Ibrahim va évoquer le nom de Dieu devant ce roi. Et ce roi, il se prend pour Dieu, donc et il dit, ton Dieu, c'est qui là dont tu parles ? Il lui dit, mon Dieu, Ibrahim, eh bien c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Et là, le roi lui dit, moi aussi, je donne la vie et la mort. Donc le roi demande à ce qu'on fasse rentrer deux prisonniers. Il lui dit, le premier, je lui laisse la vie. Et le deuxième, je le tue. Il lui dit, tu vois, moi aussi, je donne la vie et la mort. Et Ibrahim lui dit, mon Seigneur, fais en sorte que le soleil se lève de l'est. Toi, fais en sorte que le soleil se lève de l'ouest, alors. Et là, forcément, il a confondu le roi. Donc, c'est très intéressant ici. Pourquoi ? Parce qu'on voit, et d'ailleurs, en communication, il y a un point extrêmement subtil et bénéfique lorsqu'on le comprend et qu'on essaie de le mettre en pratique, c'est que lorsque Ibrahim a discuté avec Nemrod, et là je vais prendre la casquette de Steve un peu, je vais faire du développement personnel, on sait bien que quand deux personnes discutent, chacun a sa carte du monde. Par exemple, moi, un musulman, je discute avec un chrétien, un juif, un athée, j'ai ma carte du monde, il a la sienne.
C'est ta vérité contre ma vérité.
Donc si je ne fais pas un effort... pour essayer de comprendre la carte de, je ne vais pas dire mon adversaire, mais de mon interlocuteur, parfois il peut y avoir des quiproquos, des choses pour lesquelles on ne va pas se comprendre. Et l'intelligence, c'est ça, c'est de comprendre que j'ai ma perception des choses, j'ai mes vérités, mais les autres aussi, et est-ce que je suis capable de prendre une posture où j'arrive à comprendre les autres, à enrichir ma carte parfois de leur perception, tout en gardant aussi, mon identité. Et donc Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait ici ? Lorsque le roi lui dit... Moi aussi, je donne la vie et la mort. Ibrahim aurait pu lui répondre et lui dire, non, mais c'est pas de ça dont il est question. Toi, tu donnes pas la vie et la mort comme Dieu. Dieu, lui, il fait sortir la vie du néant. Est-ce que toi, tu es capable de faire sortir la vie du néant ? Qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim ? Il a accepté ça. Parce que dans la carte du monde de Nimrod, eh bien, c'est comme ça qu'il a compris les propos d'Ibrahim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ibrahim ? Il a reconnu la part de vérité qu'il y avait dans son interlocuteur. Et lui, en gros, ah, d'accord, c'est comme ça que tu comprends les choses, ok, il n'y a pas de problème. Ben, je vais te le faire comprendre autrement. Je vais te donner un autre exemple dans lequel tu ne pourras pas faire d'analogie, en fait. Et il est parti lui donner l'exemple du soleil. Donc ça, c'est vraiment très puissant dans la manière d'interagir avec autrui. C'est que quand je discute avec quelqu'un, il est bon d'être capable de se mettre à la place de l'autre, dans l'univers de l'autre, et de reconnaître en fait la part de vérité. Ah, pour toi, c'est comme ça. D'accord, j'accepte. On pose un socle commun dans lequel on peut discuter. Et du coup, moi, pour te faire passer mon message, je vais essayer de chercher des choses tout en comprenant et en prenant en compte ta carte du monde.
Sans forcément te convaincre de toute façon non plus.
Bien sûr, ouais. Mais voilà, je rentre pas dans des oppositions. Parce que certains, ils considèrent que quand on discute avec quelqu'un, il faut sans arrêt se mettre en opposition. Moi, je pense que quand on discute avec quelqu'un, être capable de faire la distinction entre les points de convergence et les points de divergence, c'est fondamental. Parce que très souvent, les gens, même dans un couple, ils peuvent avoir des dissensions. Et en fait, quand on s'assoit avec... je faisais de la réconciliation de couple. La première chose que je faisais, c'est que j'essayais de voir où se trouvaient les points de convergence et où se trouvaient les points de divergence. Et très souvent, on pouvait voir qu'il y a des points de convergence qui sont tellement importants qu'en fait, on a juste à leur dire « En fait, vos points de divergence, c'est rien. Regardez, vous avez l'essentiel. Ça, pardonnez-vous. » Et puis, point à la ligne. N'y prêtez pas attention. N'accordez pas plus d'importance à ces choses-là.
Soyez pas focus sur ce point-là, oui, finalement.
Et puis, en fait, on désamorce le conflit.
Bien. On va marquer une pause et on continue ce matin, à l'occasion des fêtes de l'Aïd, à évoquer ce personnage d'Ibrahim.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonne fête de l'Aïd à tous. Hein. Vous le savez, tout à l'heure, vous pourrez passer vos vœux de l'Aïd en direct au 01 53 48 3000. L'imam Ismaïl Mounir est avec nous ce matin. L'imam Ismaïl, vous évoquez la figure de Ibrahim, parce qu'elle est centrale finalement ce jour-là.
Elle est centrale lors du sacrifice, mais elle est aussi centrale pour les gens qui vont faire le pèlerinage.
Donc, pourquoi ?
Parce qu'en fait, le pèlerinage musulman, c'est un pèlerinage dans lequel on commémore en fait, les rites d'Ibrahim. Le prophète Mohammed, qui s'inscrit dans la continuité des prophètes, n'a fait que revivifier et restaurer le pèlerinage d'Ibrahim.
Donc on marche sur les pas de
exactement.
On emboîte ses pas sur les pas d'Ibrahim quand on fait le pèlerinage.
Tout à fait. Alors, de toute façon, on va y venir un peu plus tard. Donc, on avait parlé d'Ibrahim, de ses débats qui nous sont relatés dans le Coran. Et on peut tout de suite voir que c'est quelqu'un de très pragmatique, de très logique, de rationnel, qui est logique, qui sait argumenter, qui sait déconstruire une argumentation. Donc, on voit tout de suite que c'est quelqu'un qui a de l'analyse, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, du coup, à force de débattre, etc., on se fait des ennemis. Et donc, du coup, des gens vont décider de le brûler. Ils en ont marre d'Ibrahim. Parce qu'il conteste l'idolâtrie, etc. Et puis, en plus, il a des arguments. Mm-hmm. Donc, vous savez bien que quand on ne peut pas faire taire quelqu'un d'un point de vue des arguments, on essaye de le détruire. Alors, soit on va s'attaquer à sa personne. Et là, en l'occurrence, l'histoire ne fait que se répéter. Là, en l'occurrence, on veut vraiment s'attaquer à sa personne. Mais de la manière la plus effroyable qui soit, parce qu'en fait, on veut le brûler, quoi. Donc, il est dit que on va décider de brûler Ibrahim, on va creuser un trou immense, et qu'il faut 2 semaines pour que tous les villageois des villages alentours, il faut 2 semaines à ces villageois pour remplir le trou de bois. Dans Qisas al-Anbiya, c'est un livre où on raconte les récits des prophètes, de Ibn Kathir, c'est un livre célèbre. L'imam Ibn Kathir nous rapporte qu'une femme, elle est tombée malade pendant ces 2 semaines. Un jour, elle n'a pas pu aller chercher du bois et elle a demandé à Dieu, parce qu'en fait, ils étaient idolâtres, mais ils croyaient aussi en Dieu. Elle a demandé à Dieu, elle a dit « Ya Allah, donne-moi la santé pour que je puisse retourner chercher du bois pour remplir le trou, qui va brûler Ibrahim. » Donc c'est pour vous dire la haine viscérale qu'il portait à cet homme.
C'était plus fort que tout, finalement. Ouais.
Donc, vous imaginez un trou immense. Il faut 2 semaines pour le remplir de bois. Le jour où on arrive à allumer ce feu, c'est quelque chose, quoi. Le feu est tellement puissant que pour pouvoir mettre Ibrahim dans le feu, il faut qu'on le mette dans une catapulte. Parce que si vous êtes trop près du feu, ça vous brûle. Donc, il est mis dans une catapulte. Et là, Ibrahim, donc, il est dans une catapulte, prêt à être jeté dans le feu. et il est en train d'invoquer Dieu. Subhanallah, il fait du zikr. Subhanallah, gloire à Dieu. Alhamdulillah, louange à Dieu. La ilaha illallah, il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. La hawla wa la quwata illa billah, il n'y a de puissance ni de mouvement que par la volonté. Il invoque Dieu. Et là, à ce moment-là, il y a l'ange Gabriel qui vient le voir. Et qui lui dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et Ibrahim lui répond avec beaucoup de sérénité, il lui dit, écoute, moi c'est pas de toi dont j'ai besoin. C'est d'Allah dont j'ai besoin. Et j'ai pas besoin de toi, Allah il va me sauver. Donc il reste dans une confiance. Ça c'est très important quand on étudie la station spirituelle de la confiance en Allah, de s'intéresser à Ibrahim et à ce genre d'épisode, parce que on voit en fait que face à l'épreuve, bah en fait il est dans la sérénité. Pourquoi? Parce que c'est ça la foi en fait. L'un des plus beaux fruits de la foi, c'est la confiance, la certitude que Dieu en fait il vous assiste dans tous les instants de votre vie. Et donc bah justement il est apaisé, et donc la suite on la connaît. Donc il est catapulté dans le feu, et Dieu demande au feu d'être fraîcheur et paix pour Ibrahim. Donc il reste dans le feu. Et on dit que la maman d'Ibrahim qui est inquiète, eh bien elle aussi, le feu pour elle, il est fraîcheur et paix, et ainsi elle peut aller dans le feu, voir son fils et être rassurée. Donc voilà, il est préservé de ce châtiment que ses ennemis voulaient lui infliger par Dieu, et donc c'est un miracle qui est connu, qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions. Donc, les aventures de Ibrahim continuent. Donc, il va. D'ailleurs, certains disent que c'est quand il est sorti du bûcher qu'il est parti parler à Nimrod, le roi, donc le débat qu'on a eu. Mais il est toujours isolé, d'accord? D'ailleurs, il est tellement isolé que, un jour, donc, il est marié avec une femme qui s'appelle Sarah, qui est une très belle femme. C'est une femme pieuse, mais c'est une très belle femme. Et un jour, il rentre dans un territoire où il y a un tyran. Et Ibrahim sait que le roi, quand il voit une belle femme et qu'il la convoite, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le mari et il prend la femme. Donc le roi demande, ce tyran demande à Ibrahim, c'est qui pour toi cette femme? Il lui dit, c'est ma sœur. Donc c'est le deuxième mensonge là. Vous vous rappelez le premier mensonge, il a dit qu'il était malade. Et là il dit, c'est ma sœur. Et ensuite, on appelle sa femme. Et là il dit à sa femme, il lui dit, cet homme-là, si je lui dis que je suis ton mari, il va me tuer. Donc je lui ai dit que j'étais ton frère. Ne me dément pas devant lui. Et en plus, il lui dit, c'est pas un mensonge, parce que je suis ton frère en religion. D'accord? Et donc, elle y va, et elle, en gros, elle suit son mari, etc. Il lui dit, c'est qui pour toi cet homme? Elle lui dit, c'est mon frère. Et l'homme, donc, le tyran, il veut essayer d'approcher Sarah. Et elle, en fait, à chaque fois qu'elle voit qu'il veut l'approcher, elle fait une invocation. Elle lui dit, oh Allah, je suis une femme pure, pieuse, je me suis préservée. Fais en sorte que cet homme ne peut pas me toucher. Puis à chaque fois qu'il veut aller la toucher, il sent ses jambes qui se paralysent. Donc il lui dit, écoute, c'est bon, je te toucherai plus, invoque Dieu pour qu'il me laisse tranquille. Donc elle invoque Dieu, et puis ses jambes, il retrouve l'usage de ses jambes. Et puis il fait ça comme ça pendant trois fois, et à trois reprises, en fait, il sent qu'il peut pas toucher, et puis il dit à ses gens, c'est pas une femme que vous m'avez ramenée, c'est un démon, quoi. Et du coup, en fait, il a peur de cette femme-là, il la relâche, et il lui donne une servante qui s'appelle Hajar. D'accord, ça se passe en Égypte, il lui donne une servante qui s'appelle Hajar, qui est une arabe. Parce que Sarah n'est pas une arabe. Donc il lui donne Hajar, et ils partent. Et là, en fait, ils émigrent. Ils émigrent en Terre Sainte. Alors, est-ce que c'est vraiment Jérusalem, proche de Damas, etc.? En tout cas, il émigre dans la région Jérusalem, Damas, etc. Et quand il est sur le point d'immigrer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un certain âge déjà. Certains disent qu'il a plus de 80 ans. Et en fait, il est inquiet. Pourquoi il est inquiet? Il est inquiet parce qu'il voit que sur Terre, son message est rejeté par tout le monde. C'est vraiment l'idolâtrie qui prime. Et lui, il se sent vieux et il aimerait bien avoir un héritier pour pouvoir lui enseigner le monothéisme et que la tradition monothéiste puisse se perpétrer. Et donc, il lève ses mains. Il dit, regarde, je suis obligé de quitter ma terre, j'ai été rejeté par tout le monde, accorde-moi une progéniture. Et à 86 ans, naît Ismaël. Alors, comment naît Ismaël?
Attends, de Sarah ou d'Hajar?
Ah bah justement.
Ah bon, d'accord.
Justement, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Sarah, elle est stérile, et maintenant elle a une servante, et elle dit à son mari, écoute, pourquoi tu t'accouplerais pas avec elle? peut-être que on pourrait avoir un enfant. On les femmes d'aujourd'hui, je pense pas que c'est recevable.
Il y a d'autres moyens.
Ouais. Aujourd'hui, voilà, on va dire qu'il y a d'autres moyens. Mais en tout cas, elle, à l'époque, elle dit, bah voilà, prends-la en deuxième femme, quoi. Et donc Ibrahim va dire d'accord. Mais bon, une femme, ça reste une femme. La jalousie, c'est quelque chose, cette jalousie-là, elle est pas malsaine. Hein. Lorsqu'une femme, elle est jalouse
pour son
mari... C'est
la grande différence avec les hommes qui, eux, ne sont pas jaloux.
Ça dépend. Il y a des hommes
jaloux. C'est la grande différence, vous voyez ça.
Ouais. Ouais, on pourrait en discuter, d'ailleurs. On pourrait faire une émission sur ça. En tout cas, ce qui se passe, c'est que donc, il va avoir un enfant avec Hajar qui s'appelle Ismaïl. Et donc, du coup, le trio Hajar, Ibrahim, Aïssalam et Sarah, il va y avoir un peu de l'eau dans le gaz, comme on dit. Et donc, mais vous savez qu'Allah est souverain. Donc, on va dire qu'il y a la providence qui est au-dessus de tout ça. Et donc, ça va être l'occasion d'une immigration. Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'émigration de Ibrahim, Hajar et Ismaïl à la Mecque. À la Mecque, à cette époque-là, il n'y a rien. Comme il y a de la jalousie, Ibrahim prend Hajar et Ismaïl et il les amène à la Mecque et il les dépose là-bas. Et on sait, vous connaissez l'histoire, il les dépose, il n'y a rien. Et puis c'est là qu'il va y avoir l'autre Zemzem qui va sortir. Et Ismaïl va grandir là-bas. Et Ismaïl va grandir avec des Arabes, donc il va apprendre la langue arabe.
Mais il y a tout le chemin quand même. Non.
Elle fait 7 allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa à la recherche de l'eau.
Parce qu'on parle du pèlerinage, mais c'est vrai qu'effectivement...
Voilà, et là il y a la source qui va sortir entre le mont Safa et le mont Marwa. Et donc maintenant, en fait, on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà prévu, parce qu'il y a déjà un lieu saint à l'époque, c'est Jérusalem. À l'époque, il n'y a pas la Mecque encore, et là c'est déjà... C'est-à-dire que Dieu, il a déjà prévu, en fait, que plus tard, il y aurait une capitale de la foi là-bas. Donc, Ismaïl va grandir. Donc, on sait qu'Ibrahim revient plusieurs fois voir son fils. Et puis, donc, il va arriver à un certain âge. Et donc, on va lui demander d'immoler son fils. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une vision onirique. Dans un rêve, Ibrahim se voit en train d'immoler son fils. Et en fait, ce qui est assez troublant, c'est qu'on sait qu'il a eu son fils à 86 ans. Donc, on pouvait imaginer à quel point il était content d'avoir un fils. Mais on va lui demander d'immoler son fils que lorsque son fils arrive à l'adolescence, la préadolescence, c'est-à-dire lorsqu'il est capable de faire des tâches d'un adulte, etc. Mais qu'il reste en même temps encore dans la vénération du père. Donc c'est-à-dire qu'il y a une relation très très proche entre Ibrahim et Ismaïl. Et là, il se voit en rêve en train de l'immoler. Alors, il y a une petite parenthèse parce qu'il y a une divergence chez les musulmans. Certains disent que ce n'est pas Ismaïl et que c'est Ishaq. D'accord ? Mais la majorité des théologiens nous disent que c'est Ismaïl et que c'est bien Ismaïl. D'ailleurs, dans le livre que j'ai cité, Qisas al-Anbiya, il y a un chapitre qui est réservé, qui s'appelle « Les preuves qui permettent d'affirmer que c'est bien Ismaïl ». Mais ça reste un débat ouvert, d'accord ? Mais ça, c'est un détail, d'accord ? Ça change rien, en fait, que ce soit... Ça change rien au fond de l'affaire, que ce soit Ismaïl ou Ishaq. Et le débat est permis et ouvert dans la mesure où, en fait, on n'a pas un texte coranique clair qui vient nous dire que c'est Ismaïl. D'accord. Et ceux qui ont dit que c'était Ishaq, bah ils ont, il y a des grands savants et ils ont une manière de tourner les choses qui peut leur permettre de, on va dire, d'accorder du crédit à leur avis.
Alors il le voit en rêve, mais qu'est-ce qui se passe techniquement dans son rêve? Qui c'est qui lui demande de sacrifier son fils?
Alors en fait, les rêves des prophètes sont pas comme les rêves du commun des mortels. Les rêves du prophète, on considère que c'est une révélation.
D'accord.
Donc lui, il le prend comme un ordre divin. Et d'ailleurs, ça prouve quand même...
Donc c'est Dieu qui le lui demande, en fait.
Voilà. Ouais. Ça prouve quand même que derrière cela, il y a chez Ibrahim, on va dire, une loyauté, une véracité, une honnêteté. Parce qu'il aurait très bien pu dire, non, mais moi je l'ai rêvé, non, ça doit être satanique. Non, il sent que ça, c'est divin, il ne joue pas, en fait. Et pourtant, Dieu sait que cet ordre-là, il est perturbant et troublant. Et il va s'exécuter. Alors, il nous reste combien de temps jusqu'à la pause pour savoir est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ou...
Oui, en parlant de sujet, c'est du vif du sujet. Il reste 4 minutes.
D'accord. Alors justement...
On y va en 4.
Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Ibrahim, alayhi salam, il reçoit cet ordre. On a vu que Ibrahim, c'est quelqu'un de logique, de rationnel, qui est dans l'analyse. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous mettre à sa place à l'instant, ce qu'il a dû ressentir? Parce que là, en fait, Dieu, il est miséricorde. On a vu que quand il parlait de Dieu à son père, il parlait de miséricorde. Même quand il lui dit, le tout miséricordieux, il va te châtier. C'est-à-dire que même le châtiment divin, il l'intègre dans la miséricorde divine. Pour Ibrahim, Dieu est miséricordieux. Et donc, il a besoin d'un fils. Il veut un fils parce que ça va permettre de perpétrer le monothéisme. Son fils arrive à la force de l'âge et Dieu lui demande de l'égorger. Est-ce que vous pensez à ce moment-là, mon cher Philippe, mais aussi nos chers auditeurs et nos chères auditrices, que Ibrahim, il perçoit cet ordre divin de manière rationnelle? Est-ce que ça lui paraît rationnel? C'est complètement, ça lui paraît, de son point de vue, complètement irrationnel. Il n'y a pas de logique, en fait. Pourquoi Dieu, qui est miséricordieux, il me donnerait un fils et il me demanderait de l'égorger alors qu'il est dans la force de l'âge et qu'on a besoin de ce fils pour perpétrer le monothéisme, etc. C'est incroyable, quoi. C'est inimaginable. Est-ce qu'il y a une hésitation? Il n'y a pas d'hésitation de la part d'Ibrahim. Ce qui est encore plus frappant, c'est qu'Ibrahim, il va voir son fils. Et il lui dit, je me suis vu en rêve en train de t'immoler. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est fou, quoi.
C'est une bonne idée.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un dialogue. Ouais. Déjà, ça, c'est très important. C'est au niveau de l'éducation. Ibrahim, il va voir son fils. Il lui dit pas, écoute, je vais t'égorger. Dieu, il a dit. Il lui dit, qu'est-ce que t'en penses? Regardez la manière dont un prophète éduque un autre prophète qui est enfant. Il lui dit, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien la preuve que même dans l'éducation, nous aussi, il faut qu'on soit comme ça, en fait, avec nos enfants, qu'on accepte le dialogue, le débat, l'échange. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Et regardez l'éducation qu'il a reçue. Ben, en fait, en gros, ce qu'il lui dit, c'est que j'ai rien à penser. Fais ce qui t'est ordonné, en fait. C'est un ordre divin. Même si t'en vois pas là, le bien fondé, qu'est-ce que tu vas discuter? Si t'es sûr que c'est un ordre divin. Ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Le musulman, c'est quand même celui qui est soumis à Dieu. C'est-à-dire que je considère que Dieu est au-dessus de moi. Et parce que parfois, dans la vie, il y a peut-être des choses que je peux pas comprendre. Momentanément, je les comprends peut-être pas. Il va peut-être me falloir du temps pour les comprendre. Mais si j'exige de tout comprendre de A à Z pour pouvoir appliquer une chose, et que c'est comme ça que je base ma relation avec Dieu, alors je suis plus soumis à Dieu. Par exemple, pourquoi la prière du Maghreb, on fait 3 unités de prière et on en fait 4 au Isha? Pourquoi? Moi, j'ai pas d'explication à donner. Alors, par la raison, on peut venir essayer d'expliquer, c'est la fin de la journée, prière un père, enfin bref, mais en tout cas, il n'y a pas d'explication. Cette chose-là n'est pas réductible à la raison. D'ailleurs, l'adoration est soumise à la soumission. Et donc, on continuera la suite de cette
histoire. Et donc, dans un instant, la suite de cette histoire, de cette injonction qui est donnée à Ibrahim d'immoler son fils.
À votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bonne fête de l'Aïd sur Beurre FM. Merci d'être avec nous toute la journée. Vous savez, Beurre FM est avec vous, vous accompagne et vous pourrez en plus passer vos messages de bonne fête de l'Aïd tout à l'heure à tous ceux que vous aimez au 01 53 48 3000. L'imam Ismaël Mounir est avec nous puisque cette fête du sacrifice qu'on évoque aujourd'hui, c'est aussi commémore un geste qui est demandé, un sacrifice qui est demandé à Ibrahim.
Exactement. Donc on était en train d'expliquer en fait que cet ordre qui est reçu par Ibrahim ne peut pas être perçu comme logique de la part d'Ibrahim, et pourtant en fait il n'hésite pas, il va s'exécuter. Donc on dit en fait que justement à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ordre divin dont on ne perçoit pas le bien fondé, mais il est divin, on est sûr. Shaitan y vient, Satan vient. Et on dit, alors il y a plusieurs versions, mais on dit qu'il va venir tenter la mère. Je dis, mais vous n'allez pas égorger votre fils, c'est ton seul fils, tu vas l'égorger. Il va tenter le fils. Et il va tenter Ibrahim. Lorsque Ibrahim prend la direction pour aller dans l'endroit où il veut immoler son fils, il lui dit, mais tu ne vas pas égorger ton fils, c'est le seul. Donc en fait, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Satan? Il connaît bien. Satan, c'est un fin psychologue. Il essaie de jouer sur la corde émotionnelle. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est demandé, t'en vois pas le bien fondé. En fait, il essaie de jouer sur la corde émotionnelle, te dire, mais tu vas pas faire ça, ça n'a pas de sens, etc. Ouais. Donc, il joue sur le point sensible. Mais à chaque fois, il va être lapidé. C'est pour ça qu'on dit que je cherche refuge contre Satan, le maudit, le lapidé, parce qu'en fait, il va être lapidé par Ibrahim. Et certains disent que c'est Satan a tenté 3 fois Ibrahim. Et 3 fois, il va lui jeter des cailloux. Et en fait, les stèles que l'on lapide, pendant le pèlerinage, ça symbolise les lieux où ça symbolise les trois tentations que Satan a fait à Ibrahim avant d'égorger son fils. Qu'est-ce qui se passe? Ibrahim, il s'exécute. Donc, il prend son fils. Il lui demande de tourner la tête parce qu'il ne veut pas le voir. C'est douloureux. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est clair. Et puis, il prend son couteau. Et alors là, en fait, on a deux versions. Il y a une version qui nous dit que le couteau, en fait, il n'a pas... On a fait en sorte, Dieu a fait en sorte qu'il ne coupe pas. Donc, il a fait le geste et ça n'a pas coupé. Et d'autres nous disent qu'un ange a descendu une plaque entre la gorge de Ibrahim et le couteau. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il l'a égorgé ou pas? Alors souvent, on entend qu'il n'a pas égorgé son fils. Mais en fait, non, c'est faux. C'est faux en partie. Il a égorgé son fils. Mais il ne l'a pas égorgé de manière matérielle.
Symboliquement.
Il l'a égorgé de manière spirituelle. Derrière cette demande divine, il y a une leçon en fait. La leçon, c'est quoi? C'est que Ibrahim, il a son fils à 86 ans, et l'amour que Ibrahim a pour son fils grandit tellement qu'il vient concurrencer l'amour que Ibrahim a pour Dieu. Et Dieu, il veut lui apprendre la hiérarchie, à respecter la hiérarchie.
Dieu n'est pas jaloux.
Non, il enseigne. Ouais. Ben, on dit que Dieu, il se met en colère et qu'il jalouse, en fait. Il n'aime pas qu'on aime une chose plus que lui. Et donc, il éduque son prophète. Et il lui dit, mais c'est une jalousie qui sied à Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle n'a aucune comparaison avec la jalousie humaine. Comme la colère, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Ibrahim, alayhi salam, ben, en fait, l'amour qu'il avait pour son fils était tellement grandissant qu'à partir du moment où il a accepté cet ordre et qu'il a fait le geste, dans son cœur, il a sacrifié l'amour de son fils pour faire triompher dans son cœur l'amour d'Allah. Et l'amour du fils reste, mais elle vient s'enraciner dans l'amour de Dieu, donc il n'y a plus de concurrence. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour mon fils rentre dans le cadre de l'amour que j'ai pour Dieu. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui, hein, parce que très souvent, il y a parfois des mamans qui aiment tellement leur fils, etc. Ils n'arrivent plus à trouver, quand ils sont petits, le temps de prière, par exemple. Ou alors, quand ils sont plus grands, en fait, elles ont du mal à éduquer leur fils parce qu'elles sont tellement imprégnées de l'amour qu'elles ont pour leur fils, qu'elles ont... portées pendant 9 mois, qu'elles ont enfanté, qu'elles ont vu, que ça devient très perturbant sur le plan spirituel. Et là, donc, Dieu vient donner une leçon, en fait. Et quelque part, nous, aujourd'hui, la manière de commémorer cet événement, c'est... On prétend tous être des adorateurs de Dieu, d'être soumis à Dieu, mais est-ce que dans nos vies, il n'y a pas une chose qui a pris tellement de place qu'en fait, tant qu'on ne sacrifiera pas cette chose-là, on ne pourra pas pleinement vivre l'amour de Dieu? Ça peut être l'amour de la vie terrestre, l'argent, le travail, la vie de couple. Il y a des choses parfois dans nos vies, ça prend tellement de place qu'en fait, il n'y a plus de place pour Allah. Et chaque
année, réseaux sociaux, voilà. Netflix.
Chaque année, Dieu nous envoie ce message. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans votre vie que vous devez sacrifier pour pouvoir vraiment vivre l'amour d'Allah Azza wa Jal pleinement? Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? On peut tirer comme leçon que Ibrahim, alayhi salam, qu'est-ce qui lui a donné la force de surmonter cette épreuve? C'est une certitude. Il a la certitude que lorsqu'il obéit à Dieu, il sera en réussite. Et que même si cette obéissance ne va pas forcément dans son intérêt ou ne lui paraît pas logique à l'instant T, mais tant qu'il a cette certitude est au-dessus de ça. Et ça, c'est important pour un croyant. Parfois, il y a des tentations dans la vie. Si vous avez la certitude que vous êtes dans l'obéissance à Dieu, alors n'en sortez pas, en fait. Et soyez patient. Le bien arrive. On peut voir aussi que dans cette histoire-là, la vie est faite de facilité et de difficulté, et qu'après la difficulté vient la facilité. Mais la facilité qui vient après la difficulté est beaucoup plus grande. Ibrahim, il a surmonté cette épreuve, mais suite à ça, il va construire la Kaaba avec son fils Ismaïl. Suite à ça, Dieu va lui donner un autre fils avec sa première femme Sarah qui s'appelle Ishaq. Donc, c'est pas rien quand même. Et en plus, cette épreuve d'Ibrahim va devenir une fête pour des musulmans. Et c'est le jour le plus heureux pour les musulmans depuis 14 siècles. Donc un homme a vécu une épreuve à un endroit du globe terrestre. Et ça devient un bonheur pour des musulmans depuis 14 siècles sur toute la Terre. Et c'est un moment où les gens mangent de la viande, partagent, sont joyeux. Donc une difficulté entraîne la facilité. D'accord ? Dans un sens extrêmement large. On peut voir aussi à travers cette histoire, et ça c'est une leçon pour nous, l'intérêt en fait de se remettre en question dans sa vie. et l'importance en fait de l'amour du divin. S'il y a vraiment une leçon à tirer du sacrifice d'Ibrahim, c'est ça en fait. C'est que est-ce que réellement nous aujourd'hui, ou du moins je pense que la leçon qu'on doit prendre, c'est qu'il faut constamment essayer de nourrir et d'enrichir cet amour du divin. D'ailleurs, la religion quand il n'y a pas d'amour, ben, en fait elle est fade, elle est pauvre. Elle se savoure avec l'amour du divin. Quand je sais que Dieu, il est miséricordieux, et quand je sais que tout ce qu'il me demande, en fait, il y a un bien derrière, qu'il y a forcément une sagesse, même si je ne l'aperçois pas, mais qu'avec du temps, ça va venir, que Dieu, il est bienveillant avec moi, qu'il est affectueux avec moi, et que quelque part, c'est ce que j'avais écrit récemment, j'avais écrit les épreuves de la vie, en fait, ne sont qu'une matière première que Dieu nous envoie, afin que de cette matière première, on extrait un nectar qu'on appelle la sagesse. C'est parce que dans la vie, je suis éprouvé que j'arrive en fait à me réformer, à grandir, à mûrir, à me parfaire, à m'élever intellectuellement, spirituellement parlant. Donc ça, c'est la grande leçon en fait de cette histoire, c'est l'amour du divin. Et d'ailleurs, Dieu, quand il parle du sacrifice de la bête, il dit « Ce n'est pas la chair de la bête ni le sang qui va attendre à Allah, mais c'est votre taqwa. » Et la taqwa, c'est en fait la pleine conscience du divin. Et la pleine conscience du divin, ça passe par justement « J'ai pleinement conscience que Dieu, il est là, il voit tout. » Il est puissant sur toute chose et surtout qu'il m'aime et qu'il me veut du bien et qu'il est miséricordieux. Et donc j'ai confiance, je suis confiant. Et si je suis confiant, bah, je suis serein. Donc il y a vraiment plein de fruits spirituels à tirer de cette histoire. Alors on continue toujours, on continue encore ?
On peut. Quelle est la façon que finalement on a, nous, de nous souvenir de cette histoire et de commémorer cette fête de l'Aïd ?
Bah, aujourd'hui je pense que la fête de l'Aïd c'est beaucoup ces histoires de viande. Ces histoires de sacrifices, etc., de la viande. Mais chaque fête en islam, elle a une dimension spirituelle et éducative. Et ça, il ne faut pas s'en déconnecter. Dans l'histoire d'Ibrahim, quand même, ce qui est très intéressant, c'est que suite à cette épreuve, il va construire la Kaaba, la maison d'Allah. Et regardez, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il construit la Kaaba. D'ailleurs, quand vous allez faire le pèlerinage, la maison, le cube noir qu'on appelle la Kaaba, à côté, juste à côté, hein, à quelques mètres, il y a ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. C'est un endroit qui a été matérialisé. On voit les pieds d'Ibrahim sur des briques. Et il est monté sur ces briques-là pour poser les pierres de la Kaaba. Et c'est immortalisé. Il y a une espèce de petit, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une espèce de petite, toute petite maisonnette qui couvre l'endroit. Et on peut passer, on peut voir ces choses-là. Et donc, Dieu a immortalisé en fait la posture d'Ibrahim de manière matérielle, mais elle symbolise quelque chose de spirituel très fort. C'est-à-dire que c'est la proximité avec Dieu, en fait. On dit que Ibrahim est l'ami intime d'Allah, et généralement, ceux qui vont faire le pèlerinage, on dit que c'est les hôtes d'Allah. C'est les invités de Dieu, ils vont dans sa maison. Et c'est vrai que celui qui m'invite chez lui, il m'invite chez lui parce que je suis son pote, quoi. Je suis son ami. Et quelque part, ceux qui vont faire le pèlerinage, voilà une image, parce qu'on sait que l'être humain fonctionne avec des images. C'est, en fait, je cherche à imiter Ibrahim, à savoir, je cherche à avoir une place de choix auprès d'Allah et être son ami, en fait. Être proche de lui, me rapprocher de lui. Et ça passe comment ? Ça passe par l'obéissance, ça passe par la purification des péchés, ça passe par le sacrifice, par les efforts. Et donc Ibrahim, bah, lui, il a cette intimité avec Dieu et Dieu lui donne l'honneur de construire sa maison. Et lui dit... Une fois que la maison est construite, wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, c'est-à-dire fait aux gens une annonce pour le hajj, ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. Donc imaginez Ibrahim, il est dans le désert. J'aimerais bien que nos frères et sœurs ils imaginent ça. Vous êtes dans le désert, vous construisez une maison, il y a personne. Et Dieu lui dit maintenant fais l'appel. Lance un appel. D'ailleurs, Ibrahim lui dit, mais qui va m'entendre ? Et Dieu lui répond. Il lui dit, fais l'appel pour le Hajj. Et tu verras, les gens ils vont venir à toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Et aujourd'hui, les gens, quand ils font le pèlerinage, qu'est-ce qu'ils disent ? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak. Vous avez déjà entendu ça. Et en fait, labbaik, c'est quoi ? C'est je réponds à ton appel. C'est-à-dire que tous les gens.
Ils répondent à l'appel d'Ibrahim.
Mmh. Et ils viennent d'Indonésie, ils viennent de l'Asie.
Beaucoup d'Indonésie.
Ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils répondent à l'appel d'Ibrahim. Et aujourd'hui, ils sont des millions. Donc, il y a un miracle ici. C'est-à-dire, en gros. L'image, c'est ça, c'est que si vous avez la certitude en Dieu, ce que vous ne croyez pas possible aujourd'hui, ça viendra avec la certitude en Dieu. Alors, il y a cette phrase que j'aime beaucoup. C'était une de mes étudiantes qui m'avait envoyé cette punchline, comme dirait notre ami Steve. C'est « Depuis que je sais qu'avec Allah, tout est possible, ben, je rêve sans limite. » J'ai décidé de rêver sans limite depuis que je sais qu'avec Allah, tout est possible. Et cette histoire-là d'Ibrahim, c'est vraiment ça, en fait. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et par contre, ça montre la voie. Ça passe par l'amour, c'est essentiel dans la relation avec Allah. Et surtout, l'obéissance, la soumission à Dieu, d'accord ? Et pas aux hommes, pas aux écoles de pensée, mais vraiment à Dieu, à Allah Azza wa Jal.
Qu'est-ce qui se passe le jour du pèlerinage sur place ? Que font les pèlerins ?
Alors, les pèlerins, le 9, ils étaient à Arafat. D'accord ?
Donc, hier, ils étaient à Arafat. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ?
Donc, après, ils ont dormi à Mouzdalifa. Et après, généralement, ce qu'ils font, ben, ils ont plusieurs possibilités qui s'offrent à eux. Ils ont un certain nombre de choses à faire. Ils ont un tawaf à faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire le jour suivant. Ils ont le fait de lapider des stèles et ils doivent passer la nuit à Mina. Donc, généralement, quand ils ont fait Arafat et Mouzdalifa et qu'ils vont après, à Mina, déjà, ils peuvent se désacraliser. S'ils font, par exemple, s'ils ont fait le tawaf, qu'ils ont fait lapider des stèles et qu'ils passent la nuit à Mina, ils peuvent déjà se désacraliser. D'accord ? Donc, mais les rites du pèlerinage perdurent. Voilà. Donc, c'est des moments très, 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 très intenses pour les pèlerins.
Bonne fête de l'Aïd à tous. Merci d'avoir été avec nous, Imam Ismail Mounir.
Je vous remercie à vous pour l'invitation. Et puis encore une fois, à tous nos frères et sœurs, Aïdkoum Moubarak, Ghafarallahu lana wa lakoum wa kul am wa antum bikhair.
Et dans un instant, vous allez pouvoir passer vos dédicaces de l'Aïd. Le standard est à votre disposition. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.